bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour, Boudadi, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour.
Guillermo Guéz, Tanguy Pastureau qui sera là tout à l'heure, mais nos invités Chiara Mastroianni et Samia Gazbi. Déshabillez-vous, je vous en prie, le docteur veut vous recevoir. C'est trop la casse.
Vous savez que ils viennent ce genre là. De phrase. Hein.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Non, c'était 2018.
Hein, oui, comme vous y allez, comme vous y allez.
Non, c'est une phrase, c'est ce que dit le docteur généralement, non?
Oui, mais t'es pas docteur, je te rappelle.
Ah, c'est ça.
Voilà. Mais oui.
Voilà,
alors que Michel Simès, oui, c'est ça la différence.
Non plus.
Voilà.
La dernière folie de Claire Darling, c'est au cinéma aujourd'hui, avec vous deux donc, Catherine Deneuve également, Alice Taglioni, Laure Calamy, Olivier Rabourdin et Johan Leysen. On va en parler de cette folie. En fait, c'est adapté d'un roman, c'est ça? Que vous avez lu ou pas, Chiara?
Non, moi non. Et toi?
Samir? Non plus. Très bien.
Vous... Et alors, super. C'était bien.
Et comment vous appréhendez votre métier de comédienne? Comédien.
Ok. On... C'est difficile parce que nous, on n'a pas vu le film. Hein. On est à petit peu près en équilibre.
On va
d'abord. Bah, c'est
mon
quoi
petit... ce nom?
Mon petit cochon. Allez, questions. Ce sont des questions et vous ne répondez pas, Chiara ni Samir. Vous allez voir.
Ah,
c'est le concept de l'émission.
Moi, j'aime bien ça, des questions sans réponse.
Exactement. Si, il y a des réponses, mais ce sont plutôt nos camarades autour de la table qui doivent deviner ou retrouver le premier film que Chiara Mastroianni a vu au cinéma avec sa maman.
Bambi?
Non. Justement, on pourrait s'attendre à ça.
Les tontons flingueurs.
Tout l'inverse.
Massacre à la tronçonneuse.
Non, pas loin.
Un truc d'auteur. Ah non, un truc d'horreur.
Vendredi 13.
Non.
Vendredi 14.
Samedi
14.
Donne un indice. Fais un indice.
Ouais.
Film français ou pas?
Film d'horreur.
L'exorciste.
L'exorciste.
C'est bien parce que
le
c'est précis, c'est
agneaux.
Pas du tout vague, ça les aide beaucoup.
Mais non,
le silence des agneaux.
Le bal des vampires.
Oui.
Ah,
tu
vois.
Oh, bravo.
Tu vois.
Et ils ont très bonne vue.
Ouais.
Non, impossible. Impossible d'avoir sur mon. Non, impossible. Mais votre.
Juste de marquer. Est-ce que. Insulter Michel Simès à 12h35. Voilà, ouais, c'est tout ce que je peux voir.
Donc j'ai fait trop tôt. C'est incroyable. Vous aviez quel âge quand vous avez vu le bal des vampires?
Je me souviens plus, mais je me souviens que j'étais à un âge où on n'était pas censé avoir accès à ce film-là.
Ouais.
Mais c'est pas vraiment, vraiment un film d'horreur.
Non, mais vous l'avez vu, ça dépend à quel âge vous le voyez, parce que quand on est enfant, le sang, tout ça, ça impressionne quand même. Mais c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus,
c'est
beaucoup plus subtil que
mais
ça.
Vous avez raconté
c'est une
que,
comédie aussi.
Vous avez raconté qu'au guichet, la personne a dit non,
c'était
non pour l'enfant. Et il fallait qu'elle, que maman dise j'assume.
Oui, mais à base de je serai là, à ses côtés, et tralali, et tralala. Alors que finalement, si vous, je pense que j'ai eu beaucoup plus de difficultés à voir un film comme Bambi.
Parce que la maman meurt au début.
Mais elle dit pas tout.
Je sais pas, je vais pas rester jusqu'à la fin.
Non, c'est au début qu'elle meurt. Vous en avez fait des cauchemars ou pas du tout?
Du bal des vampires?
Ouais.
Pas du tout.
Non, parce qu'il y a des enfants qui voient, par exemple, Harry Potter, croyant que c'est une saga et que c'est, et qui font des cauchemars parce qu'il y a des monstres, parce qu'il y a des situations qui peuvent vraiment heurter des enfants.
Ouais, mais, moi, c'est plutôt les choses pas forcément impressionnantes visuellement, mais qui pourraient être une espèce de terreur réaliste qui me ferait peur. Mais sinon, les images, quoique, en fait, je me souviens plus. J'ai une connerie.
Et vous l'avez montré? Non, Samir jouait à la terreur réaliste.
Oui, mais c'est bien entendu.
Vous l'avez montré à vos enfants?
Ouais. Mais non, mais en fait, c'est vrai que c'est considéré.
Enfin,
c'est
vrai que c'est reproduit le schéma.
Non, parce que moi, j'ai pas eu besoin de les emmener au cinéma, soudoyer, tout ça. J'ai mis hop direct.
Le DVD.
Bah oui.
Ils avaient
ça
quel âge?
Se joue plus au cinéma. Ça, c'est l'avantage de quand on a mon âge, c'est que ces films-là, on les a vus en vrai sur un écran
mais
et pas en VOD avec du.
À quel âge vous avez montré le bal des vampires à vos enfants?
Très très tôt. Comme ça.
2-3 ans.
Non, peut-être pas. Il fallait qu'ils soient quand même en âge de comprendre pour s'en amuser. Mais ils étaient jeunes. Mais ils sont.
Et pourquoi devaient-ils.
Vous savez, aujourd'hui, ils sont plus rapides qu'à notre époque.
Je pense, oui. Et pourquoi devaient-ils le voir? C'était pour
vous.
Ah
non,
mais
ça comme autre chose, je veux dire. Pas du tout. Ah oui, non, il n'y a pas. Vous cherchez une tradition ancestrale, absolument.
Non, ou des valeurs ou un sens de l'humour.
Oui, un sens de la transmission, tout ça. Non, pas du tout. C'était juste que c'est un film que j'aimais bien et que je pensais que ça pouvait amuser des enfants, ce qui était le cas d'ailleurs.
Très bien. De quelle ville Samir Ghazbi a-t-il reçu une médaille, car il est médaillé tel que vous le voyez?
Dunkerque.
Non.
Grenoble?
Non, j'ai dit une ville.
Sa ville d'origine?
Région parisienne?
Ouais, sa ville d'origine, ouais.
Mais t'es pas médaillé.
Courbevoie.
Ah, t'as pas de médaille?
Non.
Ah bon, d'accord, ok.
Levallois-Perret.
Nosy-Grand.
Non.
Ah, de Montreuil.
Non.
Non.
Mais c'est quel département?
C'est peut-être pas la ville d'origine, c'est au centre de la France.
Clermont?
Bourges.
Ouais, exactement. Vous avez la médaille de Clermont-Ferrand.
Mais je suis parisien, moi. Je suis
ah, pardon. Alors pourquoi vous avez la médaille de Clermont-Ferrand?
Bah, il était là, il y avait une médaille.
j'ai été juré au festival du court-métrage à Clermont.
Bah ouais.
Et personne ne voulait aller.
Ça t'a suffi. Mais attends, je ne pas au jury, il le donne aux gens qui sont dans le concours.
Bah écoute,
pas aux gens du jury.
Ils m'ont célébré, ils m'ont filé.
Peut-être qu'ils l'ont donné pour que vous partiez.
Chance, ouais.
Et puis d'être neige, donc c'est sympa.
Pour m'remercier d'être venu.
Merci,
peut-être.
Il faut partir, monsieur.
Ouais. Voilà. Oui, c'est la médaille de Clermont. Oui, c'est la médaille.
Vous avez tellement d'enthousiasme à la raconter. ils vont vous écrire pour la récupérer. C'est un peu triste.
Vous allez finir par présenter des flash infos.
Et elle est où cette médaille?
Elle est chez moi.
Tu parles.
Ok, c'est clair. C'est clair, il l'a perdu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la valise du papa de Chiara Mastroianni pour qu'une fois en URSS, elle se fasse arrêter avec lui à la douane? Que transportait-il?
Du shit.
De l'alcool.
Non. Du poppers.
Non. Enfin, arrêter, c'est un bien grand mot, hein.
Contrôler, oui. Voilà,
et
oui.
Puis surtout, il n'était pas là. C'est moi qui ai fait le voyage
en
mode nul.
La Bible.
Un livre, non. Ouais.
Le bal des vampires.
De la nourriture.
Oui, mais laquelle?
Du saucisson, du jambon.
Ah, quelqu'un a un téléphone. Oui,
charcutier qui appelle.
Saucisson. Mais tout ça est d'un intérêt tout à fait relatif. C'est là qu'on se dit, mais t'as dit ces conneries dans les interviews. Enfin bon, bref.
Saucisson, jambon,
bah,
pâte,
tout ce qui est
tomate,
consommable et
olive.
Non
mais c'est
ça raconte l'URSS aussi.
Mais
quand même.
C'était en 84.
Ouais,
attention,
mais ça raconte,
hein, c'était avant la glasnost et tout ça.
Ça
donc,
raconte une période quand même. Se faire arrêter parce qu'on a du saucisson et du
jambon. Non, attendez. Justement, c'est bien pour ça que je précise. Je ne me suis pas fait arrêter. C'est-à-dire qu'à la douane, on m'a demandé d'ouvrir ma deuxième valise, qui n'était donc pas la mienne, et donc je ne savais pas ce qu'elle contenait, puisque avec confiance, j'ai obéi aux ordres de mon père, à papa. Et quand ils l'ont ouvert, c'est là que j'ai vu qu'il y avait de la nourriture et tout ça, et voilà. Et mais j'ai pas eu d'ennui ni quoi que ce soit.
Hein. Il avait l'habitude de prendre du saucisson comme ça avec lui et du jambon.
Non, c'est-à-dire que à l'époque là-bas, c'était plus compliqué pour avoir certaines denrées, et donc il m'a fait amener voilà des boîtes de conserve, de pâtes, de trucs de machin.
Mais j'adore l'idée de dire je peux pas me passer de pâtes quoi.
Ah non, mais ça c'était
essentiel.
La nourriture était essentielle pour lui.
Le souvenir de la grande bouffe.
De.
Mais aussi sûrement le plaisir de ramener un truc en cachet.
De quel comédien parle Samir Ghazmi quand il dit « C'est comme si je jouais au tennis avec Pete Sampras ». Échanger avec un comédien, c'est comme jouer avec Pete Sampras.
C'est longtemps qu'il l'a dit alors, parce que Pete Sampras, c'est une référence.
C'est à ce moment-là que tu as eu la médaille.
C'était il y a une dizaine d'années. Ouais. Comédien que nous avons souvent reçu ici.
Vincent Moscato.
Non, comédien que nous avons reçu ici, metteur en scène aussi, formidable.
Ils mort ou pas?
Non.
Podalydès.
Exactement, Guillermo, bien joué. Wow. Michel Faux, ouais. Bienvenue.
Ah, je suis comme ça, moi, je suis impressionnant. On dirait pas comme ça. Mais...
Le plaisir de jouer avec Michel Faux, c'était ce sentiment d'être d'un échange magique.
C'est... Bah, c'est-à-dire que. J'ai. Oula, c'est bien, je vais finir des phrases, moi.
Bah, déjà commencé.
Appliquez-vous, on n'est pas à Clermont. Hein.
Oui, c'était bien. Mais non, mais on m'avait confié Othello à l'Odéon, et ce qui était énorme pour moi. J'ai même failli pas y aller tellement je trouvais ça. Et Michel jouait Iago, et Michel, il a été incroyable. Il m'a soutenu, il m'a aidé, il a fait en sorte qu'on joue mieux. Enfin, je sais pas, il a été plus qu'un bon
mais
camarade.
Mais c'était directif, metteur en scène de l'intérieur, des conseils pour être le meilleur, ça veut dire quoi exactement?
Bah, c'est-à-dire qu'il était à la fois, il avait juste capté les endroits de faiblesse, évident, chez moi, mais, je sais pas, une forme de bienveillance. Ouais, il m'avait un peu.
Quand on est comédien, on attend quoi d'un partenaire? Le regard, l'écoute, c'est ce qui est essentiel avant même des conseils.
Une haleine pas trop dégueu, dit Cara. Aussi. Ouais, ouais.
Non, c'est un message.
Je suis désolée, mais.
Hygiène.
Tu voulais me dire un truc?
Non, mais parce que comme moi, je suis dans des questions beaucoup moins intello, c'est-à-dire que toi, t'as droit à des questions sur le théâtre, mais on me parle des boîtes de concert de mon père.
Et du saucisson.
Tant qu'à faire, restons dans le programme Oral B.
Et attendez, vous n'avez pas la troisième question encore qui t'arrive, Cara.
Pardon, je voulais pas interrompre. Vas-y.
Qu'est-ce qu'on attend? Non, mais c'est ça. L'écoute, être ensemble, enfin je sais pas, après des banalités je veux dire, mais non, mais de la bienveillance, c'est pas mal déjà, d'abord.
Ouais, ça
on
se sent
un peu trop d'ailleurs.
Et vous, Chiara, est-ce que vous attendez d'un partenaire?
Ah bah moi donc.
À part la bonne haleine.
Voilà. Non, mais pareil que qu'on joue ensemble. Ce qui m'amuse le moins, moi, au cinéma, c'est d'avoir des scènes toute seule. J'aime mieux être avec quelqu'un. C'est comme quand on est enfant, c'est plus sympa de jouer avec quelqu'un que.
Sauf que ce que.
Avec un scotch.
Faire Ken et Barbie soi-même, c'est pas drôle.
Non.
C'est mieux, il y a un Ken et un Barbie.
Ce que les non comédiens comme nous, on a du mal à comprendre, c'est que vous pouvez quand même être deux dans une scène, un dialogue, et avoir le sentiment d'être seul. C'est ça que j'aimerais comprendre quand vous dites ne pas être seul
c'est
dans un jeu.
C'est un peu comme en amour. Parfois, vous êtes deux et vous avez l'impression d'être seul. C'est ça que vous me dites.
Vous avez un message à me faire passer?
Non, pas du tout.
Non, c'est vivre ce qui se passe au moment où ça se passe. À la limite, pas avoir préparé, juste être dispo à ce que l'autre ne va pas dire et il le dit. Non, mais c'est ça, en fait.
Non, mais je comprends. Je comprends.
Non, vous n'avez pas l'air.
Ça, c'est tout Nagui, pas préparé à dispo.
J'ai pas l'air
d'être clair. Non, mais puis il peut prévenir sur des trucs.
J'ai l'air de ne pas avoir compris.
Non, oui, souvent, ouais, souvent.
Pourquoi ? Alors tenez-vous bien parce que je pense qu'elle va quitter le studio après avoir cette question. Pourquoi Chiara n'a gardé aucune photo de son adolescence ?
Parce qu'elle s'aime pas dessus ?
Bah oui.
Mais attends.
Bah voilà.
Oui, mais pourquoi ne s'aime pas ?
Parce qu'elle a des lunettes.
Son flou.
Ses cheveux, sa façon de se tenir.
Parce qu'elle a des dents pourries.
Ah, l'appareil dentaire.
J'avais un appareil, j'étais. Enfin, comme beaucoup de gens au moment de l'adolescence, ouais. On a tout qui pousse plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment quand même de déséquilibre physiquement, ouais. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je n'ai gardé aucune photo. Mais c'est marrant comme un petit truc devient. On dirait que tout à coup j'ai fait un bûcher et j'ai brûlé et j'ai prévenu l'AFP. Mais en fait, tout simplement, j'avais deux, trois photos un peu pourries, un peu grosses avec des bagues.
Chiara.
Pardon, mais des fois que, par exemple, un amoureux pourrait tomber dessus, je voulais mettre toutes les chances de mon côté et qu'il tombe pas sur des choses atroces comme
vous
ça.
Vous l'avez dit dans Chasse et Pêche.
Voilà.
L'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps, pardon,
oui.
Dans Elle, vous dites, j'ai tout détruit. Il faut dire que j'avais la totale avec l'appareil dentaire que je portais à l'époque. Je ressemblais à un requin,
Au
géant de
plus,
Moonraker.
Pardon de ramener toujours mon époque, mais à l'époque, les appareils dentaires étaient beaucoup moins répandus. Oui, et répandus que maintenant. Donc, si vous voulez, on devait être deux par école à en avoir, avec les mecs qui venaient vous dire « Et quand tu te mets une fourchette dans la bouche, ça fait des décharges. » Enfin, des conneries comme ça.
Ah, si vous voulez... mais je me suis excusé après.
Madame fréquente les scientifiques.
Donc, voilà, exactement. Voilà. Mais après, j'ai pas fait une chasse aux sorcières aux photos. Mais disons que d'accord. Si j'en avais qui me tombaient sous la main, je les gardais pas, quoi.
Samir Ghesmi, au-delà de la médaille de Clermont-Ferrand, a un CAP. Mais de quel domaine ?
Menuiserie.
Cuisine.
Plomberie.
Non.
Pâtisserie.
Et électronique.
Kung Fu.
Non.
Mécanique. C'est quoi un CAP ? Moi, je sais pas ce que c'est. C'est quoi un CAP ?
C'est un diplôme.
C'est le diplôme le plus naze de l'éducation
mais
nationale.
Non.
Ah bah tu dois connaître, Guillaume.
Ah si. Non ? Ah il faut le dire. Enfin,
moi, je connais
en ce qui me concerne.
Soudeur.
Moi, je suis un
c'est pour les métiers manuels.
Par horloger.
Pour les métiers manuels, oui, mais pour.
Non, il faut être plutôt matheux, je pense, pour l'avoir.
Presque.
Ah, électrotechnique.
Comptable.
Comptable, ouais.
Ah, oui.
Exactement. CAP de comptabilité.
Oh, c'est bien. C'est bien.
Alors, je peux développer.
C'est utile,
c'est sûr.
Ouais. C'est vrai. Voilà. Alors.
Oui,
non, mais employé de comptabilité, ça ne veut rien dire. Enfin, en tous les cas, à mon époque. Parce qu'employé de comptabilité, c'est juste. Tu n'apprends rien. Tu apprends juste à être derrière un bureau, tenir un stylo, et puis dire oui ou non, et des fois répondre au téléphone.
Ok, vous l'avez mal vécu. Clairement, vous l'avez mal vécu.
Non,
mais après, le CAP de cuisinier, menuisier, béniste, tout ces
on
métiers.
On fabrique quelque chose.
Voilà. Ça, on est d'accord que le CAP a
sa valeur. Il a peur des retombées de ce qu'il vient de dire. On est d'accord, Samir.
Allez, parlons de la dernière folie. La dernière folie de Claire Darling, qui est une réalisation de Julie Bertuccelli, réalisation où clairement elle a voulu faire passer aussi du vécu. Sa fille est présente dans le film, je crois que la sauvageonne.
La petite, la sauvageonne,
voilà.
C'est sa fille. Ouais.
C'est sa fille. Elle a une manière de réaliser absolument formidable, impressionnante de technique et de jeu de caméra où on ne sait pas trop si on est dans l'esprit du personnage joué par Catherine Deneuve. Est-ce qu'on devient dingue? Est-ce qu'on a bien vu ce qu'on a vu? Est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'on l'a ressenti? Tout a disparu, tout revient. Enfin, la manière dont c'est réalisé.
Ça m'a l'air un peu brouillon tout ça.
Non, c'est pas brouillon, justement. Je me demande si c'est pas. Pardon, Chiara?
Non, je disais, vous en parlez mieux que nous.
Je me demande si c'est pas. Si le film n'a pas. Mais vous devez vous en rendre compte quand vous l'avez tourné. Il était tellement storyboardé, millimétré. Elle savait exactement où elle devait mettre la caméra, ce qu'elle voulait avoir devant elle. Samir, il faut m'aider là, il faut répondre.
Oui, bien sûr. Mais si, tout à fait. Enfin, storyboardé, non.
En fait, la difficulté du film, en tous les cas de la fabrication, c'était qu'on raconte toute une journée.
Et journée, tu veux dire ?
Sur une journée. Oui, mais on raconte une journée.
Sur une journée.
Mais c'est une journée, quoi. Ouais.
On va vous laisser. On va vous laisser parce que là, on gêne. On gêne. Là. Je sens qu'on gêne.
Et c'est sur combien de temps?
24 heures, c'est bien.
Et tu sais quoi? Faire rentrer une journée en 24 heures, c'est pas évident.
Ah, tu m'étonnes.
Non, je me souviens de la principale difficulté de la lumière. Mais là, je sens que je m'embourbais, il va falloir que tu m'aides. Mais en fait, c'était ça. Il n'y avait pas de storyboard, il y avait juste à ce que le lundi 12 correspondait à la même lumière que le mardi 4.
C'est ça. Il faut être raccord dans le moment de la journée.
Exactement.
Mais il y a des scènes qui sont troublantes et qui nous font comprendre le trouble de Claire Darling. C'était le personnage joué par Catherine Deneuve.
Tous les trucs avec les allers-retours où tout à coup des personnages du passé réinterviennent.
Déjà, et puis je vais expliquer une scène qui est la première où je me suis dit waouh, il se passe un truc là et comment elle a réalisé ça. Il y a un vide-grenier dans le jardin avec je sais pas une cinquantaine de personnes présentes. Elle rentre dans la pièce, elle ressort, le jardin est nickel, il y a plus rien et il y a plus personne, et elle se retourne et elle retourne dans le jardin et bing, il y a à nouveau tout le monde. Et ce jeu là de réalisation, cette fluidité avec laquelle et puis à la limite c'est comme le tour de magie, j'ai pas envie de savoir comment elle a réussi à le faire, mais c'est dingue parce que on comprend ce qui se passe dans la tête de Claire Darling, qui veut justement se débarrasser de son passé, mais qui vit un moment, pas de totale sérénité, on va dire.
D'ailleurs, par moments, ce fait que ce personnage se dise, qu'on se dise, elle perd la boule, par moments, moi, je me demandais si c'était pas une feinte, comme pour avoir la paix, quoi, un peu comme quand on dit non, je comprends pas la langue, tant pis. Et, parce que par moments, il y a une espèce de malice, qui fait que c'est pas toujours sûr qu'elle perde la boule. Peut-être qu'elle fait semblant aussi.
Qu'est-ce qu'on peut expliquer sans tout divulgâcher, dire qu'elle a vécu des drames dans sa vie?
Oui, voilà, il y a des choses qu'elle a pas réglées.
Qu'elle pense qu'elle est arrivée au bout, d'ailleurs, de cette vie, et elle veut donc se débarrasser d'un stock incroyable, parce que comme maison chargée, elle est chargée.
Oui, elle avait trop de trucs, déjà, pour commencer.
Elle est blindée d'objets, de souvenirs.
Oui, elle a accumulé.
Trop, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle construit son histoire. On sent qu'elle a un rapport aux objets qui est pas juste une collectionnite aiguë. Elle construit aussi dans ses malheurs. Elle achète des pièces, des collections d'automates. Elle cherche un objet aussi qui marque un moment de sa vie. Donc, c'est pas juste entasser des choses de façon compulsive.
Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans le livre, que nous n'avons pas lu, mais on connaît quand même la construction. En gros, chaque chapitre partait de chaque objet.
D'accord.
Et donc, c'est vrai que les objets qu'elle a gardés, comme vous dites, c'est pas du tout par collectionnite, mais plutôt parce qu'ils sont investis d'un souvenir, d'une trace du passé, et dont elle arrive pas à se défaire. Et à un moment donné, elle se défait de tout ça, justement, je pense. Pas complètement par hasard, quoi.
Elle s'en débarrasse et elle les brade même. C'est ce qui commence à choquer au début.
Oui, parce qu'elle a plus
des objets qui
notion.
Partent à 2 euros ou à 10 euros, alors qu'ils ont une valeur incroyable. Et d'ailleurs, le personnage joué par Laure Calamy, la première à réagir, c'est votre amie d'enfance. Vous êtes la fille de Claire Darling. Et elle dit, mais c'est pas possible. Parlant à la maman, tu ne peux pas laisser partir ces objets-là. Oh, mais c'est pas grave, je m'en fous.
Oui, parce qu'elle les transmet, en fait. Elle cherche pas d'argent derrière ça. Elle veut les donner à quelqu'un qui sera content, enfin les donner sous une petite somme.
Surtout, elle pense ne plus avoir de temps à vivre.
Elle pense que c'est son dernier jour sur Terre.
Donc elle se dit, j'ai pas besoin d'argent. À quoi sert le bien matériel?
Je transmets.
Et pourtant, dans la transmission, elle oublie justement sa fille. dans l'héritage. Et alors vous, vous débarquez, appelé par votre copine en disant il y a un problème à la maison. Voilà.
Mais la copine, c'est ça que j'adore chez Laure, c'est que la copine, elle, elle est très sympa, elle est très bienveillante, mais en même temps, elle n'oublie pas de prendre quelques petits objets au passage qu'elle a pu négocier pour zéro bah, balle.
Si elle peut faire des brocantes, si elle fait des brocantes.
Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que Laure, elle est super d'ailleurs.
Elle le porte bien.
Mais parce qu'elle a une énergie formidable, Laure, et qu'elle nous a fait quand même beaucoup, beaucoup rire. Les jours où elle n'était pas là, moi, elle me manquait. Mais oui, c'était quoi vous me demandiez en fait?
Vous non, la fille qui
c'est
qui
vous, c'est vous qui êtes appelé au secours.
Voilà, c'est-à-dire c'est à base bascule, de ta mère arrivée. Fait n'importe quoi, il faut venir voir ce qui se passe, quoi. Parce que les deux, en fait, la mère et la fille, ne se sont pas vues. Il y a eu une dispute et pendant 20 ans, elles ont complètement coupé les ponts. Et donc c'est un peu des retrouvailles étranges, quoi. Après, Julie voulait surtout pas que, elle voulait que ce soit que le personnage que je joue soit un personnage en colère et tout ça, mais pas du tout dans un truc hystérique ou démonstratif. C'est pas du tout.
Non, mais il y a quelques colères assez rentrées. Sans parler de rancœur, il y a le poids de ces 20 années
bien sûr,
passées
bien
sans
sûr.
Être en contact
et
avec sa mère.
Construite sur un mensonge. Ouais. Parce qu'il y a eu un drame de famille et comme, mais c'est souvent comme ça dans les vies, dans nos vies quand on grandit, puis qu'on dit, ah, tu te souviens quand il s'était passé tel truc? Puis on dit, mais non, mais ça s'est pas du tout passé comme ça, en fait, c'était comme ça. Et là, on se dit, mais alors moi, j'ai passé 20 ans à lui en vouloir d'un truc dont elle n'était pas responsable. donc voilà, c'est ça ce qui se dénoue entre les deux.
Et au milieu de ça, Samir, vous êtes, et ça fait partie aussi de ce dont parlait Chiara Mastroianni tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi des allers-retours, non pas dans la folie, la réalité, ou la tête, ou l'esprit de Claire Darling, mais des allers-retours entre le passé et le présent, puisqu'on voit Claire Darling, jeune, jouée par Alice Taglioni, et aujourd'hui jouée par Catherine Deneuve. Et vous, vous êtes l'amie d'enfance qui était au début un gamin du quartier, j'ai envie de dire, et qui maintenant est gendarme, qui est installé, et qui est rassurant aussi, et qui est la référence pour elle. Elle, elle vous connaît, elle vous reconnaît, elle vous oublie pas.
C'est dans la friend zone, quoi, pour dire les choses avec moi.
C'est ça, mais en même temps, c'est un choix de sa part. Il est resté près du village. Parce que ça se passe dans un village, tout ça. Il n'a pas décidé
de partir. On est en Picardie, hein, c'est ça?
C'est en Picardie.
Je ne sais plus. Non Verderonne. C'est dans l'Oise.
On est dans l'Oise. Donc, Amir est resté près de Claire. Et il a continué à entretenir une relation avec elle. Il a été. En fait, il considère que ce qu'il va dire plus tard, que Claire a été comme une maman pour lui aussi, que Marie.
Tu m'appelles comme ça.
Tu t'appelles.
Je sais pas, tu me touches l'épaule à base de. Est-ce
pour
que
être
c'est
sûr.
Bien ça que
pour
ton...
être sûr.
Oui. Ouais. Oui. Marie avec qui ils ont grandi ensemble et qui retrouve plus tard et on sent peut-être qu'il s'est passé un truc entre les deux.
Alors vous définiriez le film comme un conte de fées, comme justement comment régler les affaires de famille, les secrets enfouis.
Moi, je pense que l'audace de Julie, c'est qu'elle parle d'un sujet qui est quand même, a priori, assez triste ou angoissant. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui perd la boule, comment on réagit par rapport à nos parents, enfin,
etc. Qui se prépare à mourir.
Qui se prépare à mourir, exactement, avec des absences et des trucs. Et en même temps, elle a fait tout ça comme une fable. Donc c'est vrai que c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça original comme parti pris, parce que c'est vrai qu'on vous dirait, je fais... Une fable sur quelqu'un qui perd la boule, c'est peut-être pas forcément deux sujets qu'on imaginerait, enfin un sujet qu'on imaginerait traiter sous forme de fable. Donc j'irais plutôt une fable, une...
Et qui fait se poser les questions sur justement la transmission, la
absolument,
la valeur
poids,
ou pas des objets
et
le poids du passé. Ouais.
Parce que finalement la fille de Claire Darling à la fois est en rejet de la mère, du passé, des objets, de cette espèce de mémoire familiale, et en même temps on voit bien qu'elle en est pas libérée du tout.
Le film réalisé par Julie Bertuccelli et ça s'appelle La dernière folie de Claire Darling. Ça sort aujourd'hui au cinéma avec Chiara Mastroianni, Samir Ghezmi qui sont nos invités, Catherine Deneuve, Laure Calami, Alice Taglioni, Olivier Rabourdin et Johan Leysen. Et c'est un succès annoncé, Tom Villa.
Bah oui, parce que ça va nous parler à tous. C'est vrai. Donc le postulat de départ, je le rappelle, une femme qui pense que c'est son dernier jour et du coup elle vend tout, mais tout. Elle brade. C'est 14h à Rungis, elle vend pas, ça débarrasse, tout à 10 balles ou j'emballe. Non, et c'est vrai que si... Il paraît que c'est peut-être la fin du monde demain vers 15h, 15h30, si vous avez des trucs à vendre, Nagui, d'accord. Je sais pas, si vous avez une voiture, une télé, ou même une dent, hein, ça peut m'intéresser.
Une dent?
Non, pas de regret? Non? Ok, d'accord. Non, mais parce que ça, c'est vrai que c'est le problème. Quand on se dit, c'est la fin du monde, vaut mieux en être sûr. Je veux dire, si t'as tout vendu et que c'était un canular de Gérald Dahan, c'est vraiment la double peine, quoi. C'est voir la triple si c'est vraiment Gérald. Mais tu vois, non, je sais que pour certains c'est glauque, mais je préfère y penser maintenant parce que le jour où ça arrivera vraiment,
tu feras quoi?
Ça serait con de perdre une heure à se poser la question. Peut-être que je peux peut-être voyager, mais pas loin de, je peux aller me balader en forêt, merde, il me reste plus que 2 heures. Et voilà. Et après, t'es comme un con. Donc, voilà, on imagine tous qu'il nous reste 24 heures à vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est comme la question, demain, tu gagnes au loto, tu fais quoi? Bon, Nagui, il s'en fout. Mais, sauf que les 24 heures à vivre, c'est sûr qu'un jour ça arrivera. Non, mais déjà, ça dépend à quel âge ça t'arrive. Il te reste 24 heures à vivre. Qu'est-ce que tu fais? T'as 10 ans, t'es dégoûté. T'as tellement de trucs à faire. Jouer, découvrir l'amour, le chômage, t'as eu plein de perspectives. Mais t'as 70 piges, c'est pas la même. Et puis, si c'était nos derniers jours à vivre, déjà, la première question, est-ce que je fais la grasse mat? Il y a débat. Soit tu dors et tu meurs reposé, soit tu te lèves tôt et tu profites. Tu peux même tenter une nuit blanche, mais c'est comme démarrer un réveillon trop tôt. Il y a des chances que tu sois crevé au moment des 12 coups. Parce qu'il y a toujours un crétin pour dire, ouais, mais t'auras tout le temps de te reposer quand tu seras mort. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Si ça se trouve, la mort, c'est juste un très long moment où on flotte dans l'espace.
Faire du jogging à vie.
Voilà, et jamais on se repose. C'est un peu comme un poisson dans la mer. Le poisson, il a pas de leaking ça, il s'en branle, il est à Marseille, il ferme les yeux et en deux vagues, il est à Nice, tu vois. Si ça se trouve, la mort, c'est pareil. Thomas Pesquet, c'est le plus préparé de nous tous. Et puis, je pense que ce dernier jour, faut le passer tout seul. Parce qu'il y a encore des gens qui vont dire, oui, mais non, faut le passer avec les gens que t'aimes. Ok, très bien. Mais si les gens que tu aimes, tu les appelles et qu'ils disent, désolé, je vais passer mon dernier jour avec les gens que moi, j'aime. Et c'est pas toi, c'est pas la pire dernière journée de ta vie. Puis je pense qu'il faut rien faire de dangereux le dernier jour. Parce que imagine après, tu restes toute ta mort comme le dernier moment de ta vie et toute ta mort, t'as un pied cassé. Déjà, marcher 2 semaines en béquille, c'est relou, mais alors toute une mort, voilà. Tiens d'ailleurs, vous savez quoi? Si un jour il nous reste que 24 heures à vivre, me dites rien. Je veux rien faire de fou, mais au moins je serai totalement détendu. D'ailleurs, si je peux me permettre de reprendre la communication du film, les auditeurs, dépêchez-vous d'aller voir le film parce que c'est peut-être le dernier de Catherine Deneuve. C'est peut-être pas vrai, mais ça va faire le buzz.
Quel salaud!
Bonne émission.
Sur
elle peut décider d'arrêter.
T'as pas honte, voilà. Mais c'est quoi cette
salle? Faut aller le voir, dépêchez-vous d'aller le voir.
Quel dieu, ordure, sors de là, toi.
Mais vous voyez le mal partout.
Sors de là, ouais, je vois le mal partout. C'est un geste de liberté, aussi, ce vide-grenier, se débarrasser, c'est le plus beau geste de liberté que l'on puisse faire, c'est-à-dire de n'avoir plus aucune attache possible. Cara, Samy?
Oui.
Bonjour.
Non, bien sûr, non, j'étais en train de réfléchir à ce que c'est le plus beau geste de liberté. C'est peut-être un peu lyrique, mais en tout cas, c'en
non, mais
est,
plus,
hein, c'est sûr.
Plus aucune contrainte. Ouais. Voilà.
Ouais.
Elle est attachée à quoi? À une pendule, à une bague. Il y a un objet ou deux qui trouve grâce à ses yeux. Tout le reste, c'est
tout
allez.
Le reste est liquidé.
Non, j'ai l'impression que est-ce qu'on n'est pas prisonnier, Samy? Est-ce que vous vous sentez prisonnier, vous, d'objets, de la médaille de Clermont-Ferrand que vous avez gardée, des trucs comme ça que l'on garde sans trop savoir pourquoi on les garde?
Oui,
aussi.
Oui, c'est vrai qu'à un moment, quand on se met peut-être un peu à jeter, à ranger, on se rend compte que on n'a pas acheté une chose, mais
non, mais quand on fait un vide grenier, on se
libérateur.
On se nettoie, c'est vachement bien.
On purge.
Moi, j'ai personnellement jamais fait de vide grenier, mais il m'est arrivé de ranger chez moi.
Et c'est pas vrai.
Mais c'est un fou, Samir, aussi.
Je suis un déglingo.
Déjà, rien que quand t'emboîtes tes petites boîtes, tu peux wear. Déjà, ça, voilà. C'est super satisfaisant.
Non, mais c'est vrai.
Je veux dire, si on n'a pas un vide-grenier, parce que nous, on n'a pas de vide-grenier à faire, mais nous, ça peut être du rangement de tiroirs, simplement.
C'est ça, et puis tu te retrouves avec 18 tiroirs que t'as
fait. Vous avez forcément des trucs chez vous qui ne servent à rien.
Mais évidemment, il y a toujours le tiroir où on fait grrrrk, on vide tout dedans, genre je rangerai un jour, tous les autres sont rangés. Il reste toujours un coin. Enfin, peut-être qu'on ne devrait pas dire ces trucs-là, c'est très personnel finalement. C'est comme raconter ses rêves.
Alors, c'était la suite, c'est justement très personnel. Parce que ce que fait Claire Darling avec ce vide-grenier, c'est une psychanalyse. C'est-à-dire que c'est, en effet, ça remue des douleurs du passé, ça remue des souffrances, ça blesse des personnes autour d'elle. Donc ça, c'est, il y a un écho bien particulier. C'est pas un simple vide-grenier avec prenez le tabouret, j'en ai plus besoin. Ça va plus loin que ça.
Alors que elle le joue comme ça.
Ouais.
Absolument.
C'est ce qui permet.
Mais c'est pour ça que ça amène le côté fable et un peu plus léger et que la fille de revienne, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas du tout traité dans le pathos du tout.
Et d'ailleurs, la fille, elle revient, mais elle s'accroche pas non plus spécialement aux objets.
Parce qu'elle, justement, elle a voulu lâcher.
Elle a déjà tourné la page.
Elle est partie loin et sans doute longtemps parce que c'était le seul moyen pour elle de respirer. Je pense que la fille, elle doit pas avoir grand chose à part sa voiture.
Mais un petit côté enquête, on va dire, sur les secrets de famille. Elle va découvrir justement ce qui était vraiment les rapports entre elle et
sa maman. Tout gâché avec Bambi tout à l'heure, l'histoire de sa mère.
Ça s'appelle. Je t'ai dit pour le Titanic.
Non,
la dernière folie de Claire. Claire Darling, c'est aujourd'hui au cinéma et la dernière folie de Guillermo Guise, c'est maintenant.
Attention. Ça va, les amigos?
Oui.
Bon, je vous préviens, je vais avoir du mal à formuler ce que j'ai vraiment envie de dire ce matin, parce que c'est une idée un peu complexe. Comme vous le savez, ces 20 dernières années, moi j'ai beaucoup de neurones qui sont sortis de ma vie à cause de la gnôle. Et vous allez me dire, ouais, alors, et Leïla, ouais, ça n'empêche pas d'être brillante. C'est vrai que chacun fait avec son métabolisme. En plus, Leïla, pour sa consommation d'alcool, elle a un coach. Alors, comparez pas. Mais mon idée, elle a un lien avec cette histoire de limitation à 80 km/h sur les routes départementales. Vous allez me dire, mec, on est sur Inter, les routes départementales, on n'y va jamais. Tu vois, donc, t'as pas un vrai sujet de chronique, je sais pas, Hidalgo, le chauffe-eau d'un Hidalgo, je sais pas, un truc avec Michel Hidalgo, un truc avec Hidalgo, n'importe quoi, un truc où on se sent concerné. C'est vrai que sur France Inter, le seul qui va en province, c'est Philippe Bertrand, et je vois bien comment les gens le traitent à la cantine. Tu vois, on dirait un mec qui a un pins chlamydia social club, tu vois, membre contagieux. Et j'en parlais avec Daniel Morin, qui m'a raconté qu'il était sorti une fois de Paris en 2014 pour acheter un jeûne, et ça lui avait ouvert les jeunes sur les yeux sur la misère de France. Vous vous rappelez, Daniel, vous m'avez dit, oh bien, c'est la dernière fois que je vais à Clamart. Et Daniel, il m'a dit, là, la province, ça me donne envie de crever dans un houmous. Je me rappelle comment il a dit ça. Ouais, en fait, et au-delà de ça, j'avoue qu'en tant que Belge, depuis la tête d'Umtiti, je vois plus la sécurité routière de la même manière en France.
La tête d'Umtiti, c'était quand exactement?
Autant avant, moi je trouvais que ça avait du sens.
C'est pas en demi-finale contre la Belgique.
Autant avant, je trouvais que ça avait du sens de sauver des vies françaises. Autant maintenant, sérieux, moi si ça tenait qu'à moi, la limitation, je la mets pas à 80, je la mets à 180. Tu vois, t'as 175, amende, on avait dit 180. Ouais, je viens de Paris, monsieur l'agent, je suis en trottinette, rien à foutre, 180. Mais au pouvoir, moi au pouvoir, tu sais quoi, j'applique le code de la route belge. T'es sobre au volant, amende. Ton contrôle technique est en ordre, amende, mon pote. Tu vas me limer ces plaquettes de frein. On verra si ça vous passe l'envie de tout fermer en deuxième mi-temps comme des lâches. Vraiment. Ceci dit, pas de problème. Ceci dit, la mortalité routière.
Tu disais pas ça devant Didier Deschamps quand il était là. Hein.
Laissez-moi parler. Ceci dit, la mortalité routière est en recul historique en France. Vous avez vu, Edouard Philippe, il l'a annoncé lundi. Mm. Edouard Philippe, putain. Vous me connaissez, moi je suis de droite qu'à partir de 22, 23 heures. Le reste du temps, je trouve ce qu'il y a important de porter des habits en laine. Mais Edouard Philippe. Là, je suis un peu content pour lui quand même. Ça fait un an qu'il purge, le pauvre. Ça fait un an qu'il dit, on va limiter à 80, vous allez voir, ça va sauver des vies. Bon, au début, ce sera peut-être un peu impopulaire. Avec les Français qui lui font faire les fesses, c'est impopulaire, va te faire enculer. Et lui, là, mais non, mais je vous promets, c'est pour votre bien. À la fin, vous allez me dire merci. On va pas te dire merci, on va te dire va te faire enculer. Pas compris. Là, le pauvre, ça le mine, tu vois. Macron, il soutient même pas. Tu vois, Macron est là. Edouard, je vais te poser une seule question. Toi, t'écoutes France Bleu? Non, mais voilà, on s'en bat les couilles, route départementale, bac de fuck up. Du coup, il est seul, Edouard Louis. Il est seul, il a plus d'amis. Ça fait 6 mois qu'il parle à un ballon. Tu vois, vraiment, il est au bout du Rolls, là. Tu le vois à la télé, t'as l'impression que c'est Vernon Subutex. Vraiment, chaque fois qu'il s'exprime en public, tu te dis, ça y est, il va dire, aidez-moi. Aidez-moi, tout le monde. Arrête de faire enculer. Même le ballon, il vaut la 90, tu vois. Et sauf que là, enfin, les chiffres de la sécurité routière, ils sont sortis. Mais d'après les calculs, la limitation à 80 aurait permis panier 116 vies sur les routes concernées apparemment. Mmh. Donc il a annoncé les chiffres, c'était plus le même homme. En conférence de presse, il a dit, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit, putain, j'ai sauvé 116 vies, je suis qui? Je suis Pamela Anderson dans Baywatch. On dit merci qui maintenant? On dit merci Ellie. Sauf que le pauvre, il n'y a personne qui va lui dire merci. Les 116 vies épargnées, c'est des vies abstraites. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui se dit, c'est moi qui suis dans les 116, quoi. Là, Edouard Philippe est là, attendez, je veux pas faire le relou, mais là j'ai sauvé 116 vies. Alors cette fois on dit qui? C'est très bien ce qu'on va dire, enculé. Vraiment, pour revenir à mon idée philosophique de départ, mais ce que je voulais dire, c'est dommage d'avoir toujours recours à des interdictions, des restrictions pour protéger les gens contre eux-mêmes. Et en fait, ce que
ouais.
Putain, je savais que j'allais pas réussir à le formuler. Le numéro de votre coach, là, c'est important. Une bonne émission.
Merci, Guillaume.
La bande originale. La réponse à cette chronique sera faite par Edouard Philippe lui-même à 18h dans Le Téléphone Sonne avec Fabienne Santès.
C'est vrai?
Oui, aujourd'hui.
Il te répondra personnellement.
Direct. Ouais, ouais.
Il va te dire va t'en.
C'est pas 116 mais 117.
Et après, je te donne le numéro de mon coach d'alcool. Ouais.
Et après, il va t'expliquer qu'on est champion du monde et pas la Belgique.
Voilà.
Nous allons évoquer la musique. La musique qui est présente dans le film. Pour un flirt avec toi. Dans la BO. La dernière folie de Claire Darling. Mais dans vos vies aussi, la musique est présente. Par exemple, Chiara Mastroianni, vous écoutiez début des années 80.
C'est 87,
exactement.
C'est en 87,
hein? Très bien.
Pardon.
Non, mais tout va bien.
Non, mais pour une fois, je peux étaler un peu de...
de connaissance musicale. 87, au moment où vous êtes dans Les Yeux Noirs.
Oui, cette dans musique, Les Yeux Noirs. Non, 87, c'est bien après. Hein. Les Yeux Noirs, c'était 84. Mais on s'en fout. Ça. Parce que moi, pourquoi je me souviens de ça, c'est parce qu'à l'époque, il avait fait un concert à Bercy.
Non, Les Yeux Noirs, c'est 87. Alors là, vous faites ce que vous voulez.
Bah, dis donc, il a mis 3 ans à sortir le film. Bah, alors, parce que moi, je me souviens très bien que c'était 84.
Il ne le prenait pas sur son temps-là, je dis c'est 87.
Hein. Il y a Gorbatchev, et donc moi, j'ai connu avant. Bon, je suis pas sûre que ça intéresse vraiment les auditeurs. Bon, là, on reparle du 80 km/h. Mais en tout cas, je vais essayer de passer le turbo pour juste vous dire que pourquoi, d'habitude, je me souviens pas du tout des dates. Non, excuse-moi, je commence à me réveiller, tout ça.
Elle est vénère.
Et du coup, voilà, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en concert. À l'époque, il avait installé. C'était incroyable. Il jouait à au Bercy centre. Et il avait installé au centre comme un box, un ring de boxe.
Gorbatchev.
Non, Prince.
C'est 87.
Faut suivre, hein, Samir, mince.
C'était.
Ouais, c'était vraiment très impressionnant.
C'était la première fois qu'un artiste se produisait à Bercy au centre de la scène à 360 degrés et la scène tournait. Pendant toutes les chansons, c'était dingue. Et le son était enfin bon, ce qui n'avait pas été le cas de pas mal de concerts à Bercy à ce moment-là.
Et cette musique pour illustrer, dans le milieu des années 80, votre arrivée dans le système scolaire classique.
Non, et puis un autre truc que je veux dire sur cette chanson-là, pardon.
Je poserai non, c'est aussi que un autre
c'est
jour.
C'est une chanson qui parle quand même du sida, et je trouvais ça hyper fort à l'époque d'avoir réussi à faire un texte aussi fort avec une musique comme ça. C'était un tube d'ailleurs. Moi, je me souviens que ça passait vachement à la radio. Et donc, voilà, pour plein de raisons, j'ai mis ça.
Et sorti.
Pardon, du coup, je vous ai.
Non, vous avez été à l'école. Et sorti le 9 septembre 87, Les Yeux Noirs. Donc.
Ah oui, pardon.
Donc c'est pas 84, c'est samedi.
Non, moi c'est pas
d'accord. Bon, peu importe. En tout cas, moi ce que je voulais évoquer, Chiara, c'est plutôt l'enfance et c'est l'adolescence.
Ouais.
Vous allez en classe normale, on va dire système scolaire classique, assez tardivement.
Oui.
Je crois que c'est à partir de 12 ans.
À partir de la 5e, ouais.
Ouais. Avant, c'était Montessori.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est vachement bien Montessori.
C'est vachement bien. Mais alors c'est drôle que vous me parliez de ça parce que hier soir, je cherchais des photos et je suis retombée sur une carte postale que j'avais écrite à mon père où il était écrit « Cher papa, tout va bien. Mercredi, je commence l'école Montessori où ils ne me demanderont de rien faire exactement que ce que je veux. » Donc, j'ai très mal formulé là à l'antenne.
Non, mais c'est ça.
Ils me laisseront faire ce que je veux. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est vraiment une vision de Montessori assez...
Mais qui est juste.
Qui est pas fausse, ouais. Qui est en tout cas beaucoup moins angoissante pour un enfant.
On rappelle que les classes Montessori, l'enfant se retrouve dans une classe et il y a tout
avec
autour.
Avec des âges mélangés.
Autour différentes activités. Et c'est lui qui choisit d'aller vers l'écriture, la peinture, telle ou telle matière.
Pas de notes, pas de classement, pas de hiérarchie, on va dire
donc
comme ça.
Autant dire que quand vous arrivez dans le système normal, c'est un électrochoc.
C'est ça. C'est la question que je me posais déjà, ce rapport à l'école classique. Et puis tout d'un coup, j'imagine qu'on est mélangé avec plein d'autres enfants et que quand on a Catherine Deneuve pour mère et Marcello Mastroianni pour père, j'imagine que ça crée, oui Samir, c'est le scoop du jour, ça doit créer un
autant
double choc.
Autant tu savais pour Catherine Deneuve, autant Mastroianni.
Ouais, parce qu'à Montessori, tout le monde s'en fout.
Ouais.
Y a beaucoup d'enfants de plein de pays différents. Enfin, moi, en tout cas, dans celle où j'étais à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était une fois de plus pas un truc super répandu.
Ouais.
D'ailleurs, souvent on disait, mais t'es complètement folle d'avoir mis ton enfant dans une école comme ça, il n'y arrivera jamais, quoi.
Pourquoi justement vous avez mis dans une école Montessori?
Mais je pense que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient donc très absents, et j'imagine qu'ils ont fait ce choix par d'abord pour que j'apprenne l'anglais, parce que c'était en anglais, et puis aussi parce qu'il y avait ce côté cocon, et qui finalement, sans doute, face à une absence parentale assez importante, devait combler. Donner des
je pense qu'aussi l'épanouissement des caractères et de la personnalité joue énormément.
C'est vrai que c'est parce que non mais alors c'était drôle aussi parce que en gros si vous voulez on vous dit que l'enfant évolue à son rythme donc l'écriture, la lecture sont pas forcément maîtrisées au même âge. Enfin moi j'ai quand même eu un droit à un test de débilité parce que passé un certain âge où je savais ni écrire ni lire, je crois que ma mère a commencé à se dire c'est sympa Montessori, mais il va falloir qu'on s'assure d'un truc quand même pour la suite.
Vous aviez 17 ans quand
même. Non, alors j'étais plus petite, je devais avoir 6-7 ans. Mais je me souviens qu'on m'avait envoyé, chez un spécialiste, parce qu'il y a eu une petite inquiétude qui a commencé à surgir. Mais donc voilà, j'étais un peu lente. Mais c'est formidable, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pression, mais il y a beaucoup moins d'effectifs, c'est beaucoup moins dur pour les profs aussi.
Ouais.
Fin des années 80, Samir Ghazmi, vous écoutiez. Ils sont tous aussi barrés les uns que les autres, aussi bien les Sparks que Rita Mitsuko. C'est un truc de dingue quand vous entendez cette musique. Déjà, ça vous donne le sourire. Et vous avez quelles images, quelle période de votre vie? Ça vous renvoie à quelle période de votre vie?
Je crois que c'est les premiers. Je sais plus, c'est quelle année ça?
Peu importe. On est où on sent, nous, les années, c'est pas important.
Non, moi j'ai surtout le souvenir aussi du clip qui est assez incroyable. Où Fred Chichin est complètement jaloux de.
Les Sparks.
De Sparks avec qui.
Catherine chante.
Ouais, Catherine chante et font l'amour, visiblement. Enfin, c'est quand, avec le solo de guitare. Enfin, pas grand chose à dire, si ce n'est que. voilà, ça m'a bien fait marrer, puis je trouve ça...
Et avec cette musique, vous voyez à quel moment dans votre vie, dans une chambre d'étudiant, encore chez vos parents, vous découvrez le boulot, qu'est-ce qui se passe?
Je crois qu'encore chez mes parents, je crois, avec une touffe, une tignasse énorme, comme ça. Le pas de def était fini.
C'est la découverte du théâtre aussi, je
ouais,
crois.
Ouais, découverte du théâtre, disparition des boutons.
Et, bah, t'as du bol.
Ah oui.
Ça s'est arrêté à 16-17 ans?
Ah non, c'était un peu plus tard.
Ah d'accord.
Oui. Et la découverte du théâtre, ouais. Oui, la découverte du théâtre.
En passant, ah
ouais, ouais, alors, on a toujours un truc sérieux avec lui.
Mais non, mais on va faire plein de trucs sérieux, Chiara, vous inquiétez
mais
pas.
Oui, il est médaillé, il a fait beaucoup de théâtre.
Mais non, mais non. Non, mais
c'est pas... Il a un CAP de comptabilité, on va se calmer aussi.
Oui, hein. Bah mon père aussi, il était comptable au début. D'ailleurs, parce que j'ai vu un truc de comment ça s'appelle.
Je peux répondre ou pas?
De Bernard Pivot. Non, il a dit un métier que vous voudriez pas faire. Il a dit comptable, je sais, c'est horrible parce que je l'ai déjà fait. Donc,
on comprend. Ouais.
Non mais t'as parlé de Sign of the Times, c'était vachement brillant, c'est le sida, tout print, c'était bien.
Vous pouvez attendre la fin de l'émission pour débriefer parce que là vous êtes encore dans l'émission.
Comment vous rencontrez le théâtre? Comment vous découvrez ce cours d'art dramatique? Je crois qu'il était pas loin de chez vos parents.
Ouais, je vois une bande de jeunes filles. Oui.
Rien, il y avait un doute, c'est la semaine prochaine que le film sort, pardon, depuis tout à l'heure, j'existe aujourd'hui, je suis désolé. Ouais.
Mais
c'est mercredi prochain.
Oui, allez-y, Samia.
C'était quoi déjà la question?
Parlez-moi, moi.
Je veux bien. Je veux
non,
bien,
c'est
je
moi, c'est à moi.
Ah, pardon, allez, là.
Je veux bien que vous répondiez, mais excusez-moi, vous êtes qui?
Non, Samia, coupez-leur le micro, on va continuer avec Samia. On va faire un duo, là, comme ça.
Non, mais je passais pas loin de chez mes parents où j'habitais, au quartier de la Butte-aux-Cailles. Et il y avait une bande de gens de mon âge, plutôt assez détendus. Des filles, ça fumait des...
Ouais.
Ouais, c'était tranquille. Et j'ai eu envie de voir ce qui s'y passait à l'intérieur. Ils étaient devant une espèce de boutique avec des rideaux opaques.
Ouais.
Comme ça, ils savaient pas trop ce que c'était. J'ai dû ralentir la cadence. On m'a invité. Je suis entré.
Ouais.
Et là, j'ai vu...
Il meurt. Et il meurt, ne finissant pas sa phrase.
Non, et là, j'ai vu une petite scène. J'ai entendu des...
Allez, vas-y.
Une langue, du texte, et on passait, et puis moi je me suis assis et j'ai vu des scènes qui se passaient, et à un moment on s'est retourné, le prof au bout d'un mois m'a dit bah toi,
vas-y.
Un petit moment que t'es là, vas-y présente-toi.
Et c'est une façon aussi d'aller un peu à l'encontre de la vision qu'on renvoyait de vous à l'école, que vous n'étiez pas un très bon élève, que vous étiez un peu un cancre, tout d'un coup le théâtre c'est aussi s'accaparer les mots, la langue.
Ouais, puis être... accepter accepter ce qu'on critiquait au lycée, quoi, ce côté un peu rêveur à côté de ses pompes, là on aimait ça, enfin
ouais, ce qui était un défaut devient une qualité.
Voilà.
Ouais. En 1996,
Chiara... Il est pas là pour rien.
Pour une fois que je t'ai écouté, Chiara Mastroianni, vous écoutiez. Puissance incroyable, ça.
Ouais. Red Hot Chili Peppers. Du clip de Stéphane Sednaoui qui était incroyable. C'était toute une époque, tout à coup, d'un truc où il y avait une espèce de des nouvelles personnes qui ont débarqué comme ça, que ce soit en visuel, en photo, comme de Sednaoui justement, et eux, les Red Hot. Mais après, ce qui est super ingrat, c'est que c'est vrai que quand on a préparé l'émission et qu'on demandait qu'est-ce que vous écoutiez à ces époques-là, c'est super ingrat de choisir qu'un groupe ou un titre difficile. Mais okay, j'adorais ça, je trouvais que l'énergie des Red Hot était incroyable.
Tout à l'heure vous parliez de Prince, ça, la chanson sur le sida, là, cette chanson est sur les addictions et sur la drogue, le Give It Away, donc Abandonne, chanson qu'il a faite pour...
Ah oui, vous pensez que j'ai une thématique.
Pour un copain. Non.
Une thématique
je
douleur.
Pensais, pas du tout.
D'actrice tourmentée.
J'allais dire, une
thématique valeur. Au contraire, c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont pas naïfs, quoi.
Oui, c'est marrant parce que j'avais pas du tout fait le lien et parce qu'une fois de plus, on en met un, mais il y en a beaucoup d'autres que j'écoutais, c'est le hasard. Mais franchement, non, je
vous n'attachez pas plus d'importance que ça au texte.
Si, j'adore le texte, mais disons que
Non, mais comme vous êtes parfaitement bilingue, il y a plein de personnes qui peuvent écouter Sign of Time et Give It Away sans forcément chercher à voir de quoi ça parle et ce que ça raconte.
Oui, et on peut aussi être bilingue et pas comprendre une broque de ce qu'ils disent, parce que ça va très très vite.
Ouais, c'est vrai.
Je trouve que le Prince, on comprend, là, pas forcément tout.
Est-ce que le chanteur sait ce qu'il dit des Red Hot?
T'inquiète pas pour lui.
Et 96 Chiara, c'est une grosse année de cinéma, Desplechin, Téchiné, Raoul Raoul Ruiz. Vous partagez un de vos partenaires de jeu sur le film de Raoul Ruiz. C'est votre père dans Trois vies et une seule mort. On vous a pas encore posé la question qu'est-ce que ça fait de jouer avec Catherine Deneuve, mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce que ça fait de jouer avec Marcello Mastroianni ?
Ben, c'était super. Après, le truc, c'est que autant avec ma mère, sur un plateau, il n'y a plus du tout de relation mère-fille. Autant avec mon père, c'était difficile de lui faire oublier. Donc, il était toujours, tu vas attraper froid, mets un pull. Donc, c'est vrai que je l'adorais, mais en même temps, il me tirait toujours vers un truc de petit enfant qui me rendait... dingue, où je me souviens d'un tournage, enfin, on s'est retrouvés plusieurs fois sur des tournages ensemble, pas forcément avec des grandes scènes ensemble. Mais il y avait un tournage d'un film d'Altman qui s'appelait Prêt à porter avec beaucoup de stars. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Et donc, c'est vrai que bon, il y avait Lorraine Bacall, Julia Roberts.
Ouais, c'était plus des sketchs.
Oui, mais sauf que quand on est sur le plateau et qu'on est un jeune acteur, enfin, c'est assez fascinant, quoi. On veut pas rater la cantine. C'est le moment où on va enfin pouvoir les avoir. Et mon père venait tous les jours avec deux sandwichs, un pour lui, un pour moi, en me disant alors, tu manges avec moi. Et ça me fendait le cœur. Mais c'est vrai que j'arrivais pas toujours à dire oui à son jambon beurre parce que il se passait des trucs fous à la cantine, quoi, en gros.
Le film de Raoul Ruiz, quand même, votre papa vous tue.
Oui, absolument. Absolument.
Il a eu du mal.
Oui, mais c'est Raoul Ruiz. il a eu du mal, ça, c'est une bonne question. J'ai pas l'impression, non.
Et qu'est-ce qui vous a appris sur un plateau de cinéma quelque chose de pratique, de simple dans le jeu du comédien.
Lui, il me dit oh, écoute, tant que tu sais traverser un travelling, t'es peinard. Parce qu'en gros, travelling, c'est simplement que parfois la caméra est disposée d'une telle sorte qu'il y a comme un rail, comme un rail de train, si vous voulez. Et vous devez le traverser, évidemment, en évitant de regarder vos pieds, de lever les genoux trop, un truc de base. Enfin, en même temps, c'est bien gentil de me dire ça. Lui, après les 200 films qu'il avait fait, c'était pas la même... Il y avait beaucoup plus de distance et de détachement et surtout de décontraction que moi, qui débutais et qui était vite affolée, quoi.
Samir Ghazmi, à ce moment-là, vous écoutiez... Dance.
Pour le film
Batman.
Oui, c'est pour le film que vous avez choisi cette musique.
Non, c'était pour ce morceau aussi.
Ah d'accord.
C'était pourquoi vous n'avez pas ce morceau.
J'adore Prince.
Mais cet album-là,
j'étais à tous les concerts, y compris. Je sais pas si vous avez traîné au New Morning aussi, parce qu'il y avait un after.
Non, j'ai pas eu cette chance.
Il y a eu un after au New Morning à 3h du matin où il y avait ces musiciens lui qui ont joué jusqu'à 5 du. Mais c'est pas.
C'est vrai que cet album il a été assez controversé.
C'est pas le meilleur Prince. Quoi. Que...
Ben oui. Et moi je l'ai beaucoup aimé celui-là.
Okay. On respecte. Ouais. Et vous, Samir, on vous retrouve à l'affiche de Malik le Maudit.
Ah oui.
Qui vous a valu, je sais pas si c'était des médailles, mais en tout cas des prix. Le prix Michel Simon, le prix aussi du film Damien. C'est votre premier rôle.
Ouais, c'est mon premier rôle, ouais.
Ouais, qui vous fait découvrir aussi au grand public. Et puis j'imagine à des réalisateurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous associez à Malik le Maudit?
Oh ben c'était déjà mon premier film et c'était la première fois qu'on me faisait confiance avec un rôle pareil, quoi. Et c'était Youssef Hamidi qui réalisait son premier long métrage. Et c'était une fable aussi sur un ton de la comédie et qui racontait l'errance d'un jeune gars de cité avec de l'humour. Et c'est que des chouettes souvenirs, ça.
Alors, à propos de souvenirs, on va
voir le débile qui arrive pas à finir de phrase. Oh mon dieu.
Non, on a senti
l'émotion. Heureusement que l'émission n'est pas en direct, on va couper tout ça.
Oui, on va un peu de flotte.
On est des pros. Le film sortira la semaine prochaine, le 6 février.
Malik le Maudit.
La dernière folie de Claire Darling. Vous parliez de souvenirs, justement, et il y en a dans ce vide-grenier, du désespoir de la fin de sa vie pour elle sur Terre, car Darling veut se débarrasser de ces objets. Et justement, Mélanie Fauré, merci de venir à ce micro. Vous êtes docteur en psychologie clinique et psychologue clinicienne. Oui. Quelle relation on a aux objets, justement? On parlait de ce que l'on stocke sans trop savoir ce qu'on en fait, de ce que l'on on retrouve par hasard dans une boîte à chaussures, que ce soit des photos, des bibelots ou des médailles de Clermont-Ferrand. Et puis, il y a des objets, justement, dont on veut se débarrasser, comme purger, que tu as dit tout à l'heure.
Oui, Daniel purger, Morin, exactement. Purger, nettoyer. Premier groupe, verbe.
Il y a plusieurs liens aux objets, il y a le lien d'attachement que l'on peut avoir et plus le lien est investi affectivement, plus il est difficile de s'en séparer.
C'est vrai que c'est une peur de la mort de collectionner aussi.
Oui, tout à fait.
C'est conjuré.
Ah, mais attention, c'est avoir conjuré. Plein d'objets, pardon. Hein. Oui. Mais une collection et avoir plein d'objets, c'est pas pareil quand non. même. Ouais. Parce qu'une collection, il y a quand même l'idée d'un truc auquel on touche pas. Je trouve ça un petit peu plus.
Puis on fait une œuvre.
Ouais, voilà.
Et c'est en relation avec un certain ego aussi. Quand on collectionne, il y a un côté un petit peu orgueilleux.
Ouais. Alors quelqu'un qui
pas bon, pas bon, pas bon.
Mais non, c'est, voilà, c'est pour compenser peut-être une faille, donc c'est peut-être équilibrant
plus,
aussi.
Quel rapport
J'en rajoute un peu.
Mélanie, quel rapport avec la mort justement?
Eh bien, il est fort probable qu'il y a eu des événements de vie qui ont amené à ce que certains deuils soient difficiles à accepter. Des deuils, des séparations avec des personnes de l'enfance, des morts subies, des mortes, enfin des décès.
Hein.
Donc ça veut dire que lorsque on perd un proche et que l'on garde tous les objets qui appartenaient à ce proche, c'est qu'on ne réussit pas à faire le deuil, ou parce que généralement quand on garde ces objets, c'est pas respect pour lui aussi, donc c'est
oui,
un peu délicat.
Oui, c'est une partie du deuil, c'est une manière de le garder un peu vivant, un peu avec soi. Une manière de le posséder encore.
J'entends, mais le conseil que vous donnez d'un point de vue psychologique, puisque vous l'êtes, c'est pour faire le deuil, il faut justement se débarrasser de ces objets ?
Progressivement.
D'accord.
De manière à internaliser, de ne pas avoir besoin d'un objet extérieur pour pouvoir s'accrocher au souvenir de l'être cher.
C'est pas plus simple si on fait empailler la personne qui a décidé pour la garder chez soi ?
Il y a des personnes qui font ça avec des animaux, mais je trouve ça un peu glauque.
Avec un partenaire, non ?
Non plus.
On n'a pas le droit ?
Non.
C'est dommage.
Oui,
le grand débat national mériterait d'avoir ça.
J'entends, c'est ça.
je fais des propositions.
Et par rapport aux objets de sa propre vie, et pas aux objets d'une personne qui nous a quittés, mais son doudou, des objets de sa naissance, des objets qui ont marqué une vie.
Vous connaissez quelqu'un, notamment vous, qui a toujours son doudou ?
Je pense à des comédiens qui peuvent garder soit des trophées, soit des vêtements qu'ils avaient portés pour tel ou tel rôle, ça c'est pas...
Si, c'est du vol.
Non, généralement ils donnent des vêtements.
Un besoin de réassurance, à défaut d'une sécurité.
Pardon ?
Un besoin de réassurance, à défaut d'une sécurité profonde, il y a besoin d'avoir ces objets à doudou pour se réconforter.
Non mais ça peut être un bon souvenir, simplement.
Oui,
on garde, moi je sais par exemple, une bonne bouteille de vin partagée avec des potes lors d'un soirée, je garde la bouteille vide.
Ouais, vous en faites un pied de lampe ?
Non,
il fait un bowling après.
Non, je la fais signer par les potes. Enfin, ça reste un objet qui marque le repas, le moment. C'est ni du fétichisme, ni des regrets, rien du tout. C'est juste
un petit peu quand même.
Un moment de partage.
un petit peu.
Non, c'est prolonger le moment de partage.
Prolonger une partie de vous-même quelque part. Vous avez besoin d'avoir ça à l'extérieur pour pouvoir vous en souvenir.
Et bim.
Voilà. Ouais.
Nagui, ça se voit tellement que tu as besoin de prolonger quelque chose de chez toi. Mais ça se voit tellement.
À part le nez, tu veux dire. À part le nez.
Mais c'est pas forcément un défaut, c'est une manière d'être, c'est équilibrant.
Alors comment on dit adieu à ces objets ? Est-ce qu'on doit leur parler aux objets ? Est-ce qu'on doit leur dire au revoir ? Est-ce qu'on doit... Je lis en ce moment pas mal de papiers sur cette prêtresse du rangement Marie Kondo.
Il y a même une émission maintenant où on voit les gens ranger, c'est épuisant.
Sur Netflix,
moi je dis, mais qui peut avoir envie de regarder des gens ranger ? C'est déjà assez chiant comme ça de ranger chez soi. Il faut les voir faire des piles de chaussettes, de trucs, embrasser leurs objets, leur dire au revoir et tout le bazar.
C'est ça, donc elle...
Elle a vendu des millions de bouquins, non, parce que là on se marre,
mais c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il ne faut pas en effet tout garder, il faut engorger une maison, qu'il y a une part de psychologie là-dedans, et qu'il faut savoir se séparer des choses, et pour s'en séparer, il faut les embrasser, leur dire au revoir.
Moi, j'appellerai Mary Poppins, et hop, c'est réglé. Elle se frotte le nez, on en parle plus.
Alors, Mélanie.
Pardon.
C'est à partir du moment où on peut identifier l'émotion qu'il y a dans le lien à l'objet. Si effectivement, il s'agit d'un affect, il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir de la tristesse.
Les premières chaussettes d'un bébé, par exemple.
Et donc là, à ce moment-là, oui, il est important de parler aux objets pour pouvoir s'aider à se séparer.
Aux objets.
Ah ouais. On a passé des bons moments ensemble.
On va suivre le monsieur en blouse blanche, sans faire d'histoire.
T'as pas parlé à des bouteilles, toi, allez. Bisous, toi.
Les vides-greniers, les brocantes ont un énorme succès. Alors, le succès vient de ces personnes qui veulent se débarrasser de certains objets, ou le succès vient de ceux qui les récupèrent pour 5 euros, 10 euros, et finalement, ça donne une deuxième vie à l'objet.
Les deux aspects. À la fois, il y a une manière de pouvoir s'en libérer, d'être dans un lien où on redonne une valeur en attribuant même une valeur symbolique, et l'autre personne qui est dans la recherche de l'objet rare. Et en même temps, il se passe aussi quelque chose dans ces interactions, c'est l'interaction sociale.
D'accord, mais on retombe un peu dans le côté objet avez-vous une âme, c'est-à-dire qu'on se demande si un objet a une mémoire de ce qu'il a vécu ou partagé.
Ouais, on le dit sur les bijoux anciens, par exemple, parfois.
L'objet, non, mais la projection que l'on peut faire sur l'objet, oui. Ouais.
Et quand il s'agit de portraits, on le voit dans le film, le portrait de la grand-mère, on vous voit observer une dame qui passe avec un tableau sous le bras. Là, ces objets-là, les vendre et aussi les acheter, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir le portrait de la grand-mère de quelqu'un d'autre dans son... des questions que je me pose.
Ah bah celui si qui, celui qui a la Joconde, il a le tableau d'une grand-mère qui est pas la sienne.
Oui, bien sûr, mais c'est la Joconde.
Moi, j'ai des photos d'enfants, c'est le mien.
Ça, c'est glauque.
Oui, mais c'est les spécimens quand on achète les cadres, il faut les retirer après.
Par contre, la police va s'en occuper. Mélanie, vous avez une théorie sur ces horreurs ?
Le vendre des objets aussi, donner ou vendre des objets aussi personnels, c'est-à-dire voilà des tableaux qui représentent un ancêtre, ça c'est quand même pas.
Ouais, c'est intime d'acheter des objets ayant appartenu à quelqu'un d'autre.
Et les vendre aussi, c'est-à-dire
ça dépend si on est encore attaché ou pas à cet objet. Si on le vend en ayant un détachement, non, il y a plus d'intimité.
En fait, est-ce que sans être manichéen, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de garder des objets et de s'en débarrasser?
Il
y a pas de règles.
Je vais répondre d'une manière plus nuancée. Ouais. C'est bien d'avoir son libre arbitre.
Non, non, première position, c'est trop facile ça. C'est trop facile.
Merci, Mélanie Voet, merci. Tanguy Pastureau, où sont les vieilles voitures diesel dont on ne veut plus?
Eh bien, Nagui,
j'ai l'acteur.
T'imagines, j'ai tellement pas envie de lire cette phrase.
Tu vois, j'ai une réponse.
Eh bien, Nagui, elles vont en Afrique, ce continent qui nous a donné Alpha Blondie, Tiken Jaffa Coli, mais aussi des gens qui ne font pas de reggae comme Robert Mugabe. Là-bas, ça génère une pollution délirante et autre scandale. Les cigarettiers y vendent des clubs deux fois plus nocifs que les nôtres. On a cru que l'Afrique, c'était une poubelle.
Et on en parle après les infos de midi. Oui. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus. Voici mes condisciples. Leïla Kadamboudadi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ouais, c'est bon, ça va.
Tom Villa. Tony Passereau.
Bonjour.
Guillaume Ogris. Et nos invités, Cara Mastroianni et Samir Ghezmi. Pour une fable, pour un film qui fait rêver, qui fait réfléchir, mais qui a aussi sa petite part de suspense, parce que on essaye de voir comment ce dénouement familial, ces tragédies vont être soit revécues, soit expliquées entre la mère et la fille, c'est-à-dire Claire Darling, interprétée jeune par Alice Taglioni, aujourd'hui par Catherine Deneuve, et vous, Marie, sa fille, interprétée. Alors, j'ai pas le nom de la comédienne qui vous joue petite fille, vous l'avez...
Colomba.
Très bien. Vous avez que le prénom, vous. Je vais le retrouver. Colomba Giovanni.
Exact.
Voilà. Colomba Giovanni. Il y a également Mona Guanard qui joue Marie Darling, encore plus petite. Et donc vous, Cara, qui revient 20 ans après, à la fois pour essayer de comprendre ce qui se passe à la maison, mais aussi pour régler quelques petits comptes. Il y a aussi de ça.
Oui, un petit peu, ouais.
Un petit ça. Et puis Samir Ghezmi, qui est celui qui est fidèle parmi les fidèles, qui est toujours... J'ai dit une bêtise ?
Ghezmi.
Un S.
Et je ne l'ai pas dit ?
Ghez.
Ghez.
Tu sais qu'il y a des gens qui écoutent la radio pendant que tu dis
ça. Oui, ben, comme ça, on entend bien votre nom.
Samir Ghezmi, qui joue celui qui a toujours été là, le fidèle parmi les fidèles, celui qui est là pour aider, la maman en cas de problème, qui est gendarme. Donc c'est vraiment le gentil qui est là pour aider.
Celui qui ne se barre pas, quoi.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais tous les personnages...
Il ne se passe pas grand-chose là où il y a un village de 5 habitants.
Tous les personnages semblent un peu pas amoureux, mais il y a un rapport comme ça, que ce soit le prêtre où on subodore une relation un peu particulière.
L'abbé Georges.
Ah oui, à mon avis, ils ont eu un truc.
Oui, il y a eu quelque chose. Ouais. Vous, Samir, votre personnage, vous l'avez toujours regardé, je pense, avec tendresse et encore aujourd'hui comme une mère, mais aussi comme une très belle femme. Il faut dire que dans ce film, Catherine Deneuve, elle est absolument sublime, avec les cheveux blancs. Là aussi, c'est...
Ça lui va vachement bien,
d'ailleurs. Oui, ça lui va très très bien.
Incroyable,
très belle comme ça, absolument. Et même le personnage de Laure Calamy, quand on voit les flashbacks enfants, on voit tout d'un coup la féerie qui se crée dans son regard à l'idée de découvrir ses automates, de voir cette femme jouée par Alice Taglioni, si belle, féerie, si élégante.
Féerie qui continue avec la sauvageonne qui pique des objets, qui se fait son espèce de
Oui, qui est une espèce de métaphore
l'enfant en nous, si j'ose dire. Non, mais qui est là à prendre effectivement à piquer des petits objets partout et à se faire un trésor de guerre un arme.
C'est génial.
Une sorte dément.
Tous rêvés de faire ça. Ça sort la semaine prochaine, mercredi prochain, la dernière folie de Claire Darling. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, l'Afrique est un continent majestueux.
Oui, on y trouve des lions, il en reste quatre, des hippopotames, deux, des rhinocéros blancs. Ah non, trop tard, il n'y en a plus. Mais bon, en Afrique, il y a des humains. Et tous mes amis qui y sont allés m'ont dit, les gens sont gentils. On dit ça que pour l'Afrique. Jamais un pote revenant d'Amsterdam ne vous dira, les gens sont gentils. Il vous dira, les gens sont défoncés. Ce qui est vrai, moi, la seule fois où j'y suis allé, j'étais à ce point d'équerre que tout le séjour, j'ai discuté avec mon vélo de location. Et le pire, c'est que je trouvais qu'il avait un avis intéressant sur les choses. Il disait, tu vois, le garde-boue, c'est un peu le caoué du vélo. On a donc, nous, les Blancs, mais aussi les autres, je pense à Jean-Pierre Foucault, un rapport à l'Afrique encore paternaliste, à tel point que quand Amadou et Mariam viennent chanter en France, on les aide à se déplacer. Mais enfin, laissons-les, ce sont des adultes. On dit, ouais, mais ils sont non-voyants. Et alors ? Ça leur laisse quatre sens. Si à midi 5, ils suivent l'odeur de tabac froid émanant de la barbe de Daniel Morin, ils arriveront en studio pile à l'heure où Nagui, vous êtes en train de déconner avec Laetitia Gaillet, ou beaucoup moins avec Thomas ou Bruno. Et puis, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'on y a trouvé Lucie l'Australopithèque, dont Alain Juppé, qui l'a connue de son vivant, dit que c'était une fille très sympa, végane, hein, ne bouffait que des petites baies. Mais en fait, on prend ce continent pour une poubelle. Oui, une poubelle. Cet objet dans lequel on jette ce dont on n'a plus l'utilité, comme un peigne pour Eddie Depreto, ou des cartons de bulletin d'adhésion au PS pour Olivier Faure. Alors déjà en juillet, les Pays-Bas, qui sont au-dessus des Hauts-de-France, hein, ce qui est totalement con. Auditeur, si ton gosse a 4 ans géo, sache que ce n'est pas de sa faute. Alertait. Toutes nos vieilles voitures diesel, disent-ils, celles qui crachent des gaz et particules fines à un point tel qu'après 12 secondes à l'arrière de la Fiat Panda en cause comme Gérard Darmon, se retrouvent au Mali, au Bénin ou au Togo. Les Pays-Bas le savent parce que les voitures partent du port de Rotterdam direction l'Afrique. Elles descendent vers le sud, comme Manuel Valls, sauf que lui n'a pas l'ABS, donc il va dans le mur. Le truc est simple à comprendre, les Européens s'équipent en voitures électriques, mangent du boulgour, ont un mini potager dans la cuisine qui produit une tomate tous les 15 jours, ce qui suffirait si jamais on était des pucerons, et pensent qu'ils sauvent le monde. Mais les diesels qui puent dont on se débarrasse, on les met pas à la casse, puisque le monde est ainsi fait que les plus pauvres récupèrent toujours les déchets des riches. Enfin, les pauvres ou les radins. Moi, je suis content de ne pas avoir investi en 97 dans l'album de G-Squad, puisque là, en vide-grenier, il était 1,5 centime d'euro. Il n'y a même pas de pièces qui permettent de l'acheter. Bref, les Maliens, les Togolais qui sont en quête de voitures pas chères, parce que la différence de niveau de vie avec nous est la même que c'est par Philippe Poutou de Jeff Bezos d'Amazon, les achètent et la pollution explose. Les mecs ont les poumons dans le même état que la tête de Renault dans le film Germinal en 93 ou que la tête de Renault aujourd'hui dans la vraie vie.
Et en plus, pour aggraver la situation, les cigarettiers écoulent en Afrique des produits nocifs.
Oui, alors à la base, le tabac est nocif. Hein. Avaler de la fumée, ça n'a rien de naturel. Le corps, à un moment, lâche. C'est comme le zouk love. Si vous le dansez, ça finit en claquage ou en orgasme ou les deux en même temps et la personne en face ne sait pas à votre tête où vous en êtes au niveau sensation. Quand j'étais petit, moi, mais la clope, c'était cool. Une Marlboro et les types se prenaient pour des cow-boys. Alors qu'aux États-Unis, ces mecs, ce sont juste des gardiens de vaches. L'équivalent chez nous de Didier, le paysan limousin à pustule, qui compte sur l'amour et dans le pré pour se déniaiser. Enfin, quand le boss de la FNSEA se siffle un glyphosate on the beach. Hein, c'est ça qui sert au bar de la FNSEA. Bon, bah, personne n'a envie de faire pareil. Et là, d'après une ONG qui a enquêté, les cigarettiers suisses, donc les autres, c'est pareil, hein, vendent en Afrique des clopes deux fois plus chargées en substances nocives qu'en Europe. Une camelle suisse à 0,70 mg de nicotine, 1,30 si elle est vendue au Maroc. Ce qui n'a qu'un avantage, c'est que les humoristes calés sur le Marrakech du rire vont s'empoisonner, mourir, et que ça va faire respirer un peu le monde de l'humour, parce que là, on est trop nombreux. Chez nous, la vente de tabac s'effondre, donc les marques misent tout sur l'Afrique, où là, ça monte, c'est Satan qui est derrière l'industrie de la cigarette. L'Afrique se farcit nos diesels pourris, des cigarettes ultra chargées, les Africains vivent donc notre vie d'il y a 30 ans. Ce qui est super, ils sont en 89. Ils peuvent porter la moustache et la nuque longue sans qu'on leur demande s'ils sont à Europe Écologie Les Verts. À eux, l'alarme fatale numéro 2. Ils vivent dans un monde où Paula Abdul est une référence de la pop. Ah, pa, 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 pa. Do you love me? Do you love me? Ah, come on now! Pardon, je m'enthousiasme.
Mais c'est incroyable.
Non, mais écoutez, en 89...
J'ai jamais vu comme ça.
Ah, bah oui, mais en 89... En 89, on avait de la musique. On n'était pas sur du Juliette Armanet avec son piano et sa belle voix. C'était plus démocratique. Une boîte à rythme, une choré, t'étais le roi du monde. Alors certes, les Africains fument des saloperies, comme mon tonton René qui en 89 tirait sur ses gitanes sans filtre. Mais moi, ça me rappelle des tas de souvenirs. 89, c'était génial. Le début du chômage de masse, le sida, la fin de la trêve de l'ETA, les vampes. Oui, non, en fait, c'était atroce. Donc il n'y a aucune raison qu'en Afrique, on revive ça. Les pauvres, ils ont déjà Magic System. Le niveau de vie n'est pas une excuse. Et puis rien que pour les voitures, si nous on roule en électrique, mais que là-bas ils tournent au diesel, dans le cas où on prendrait la chose sous l'angle planétaire, ça n'a pas de sens. Une moitié de l'humanité qui respire de l'air pur en buvant du thé vert et l'autre qui crève, ça va, on a déjà donné.
Merci Tony Passo. La bande originale. Sur France Inter. Les problèmes d'écologie, de planète, de réchauffement climatique, ça vous touche ou pas du tout ?
Pas du tout. Pas du tout. On s'en fout complètement.
Ça, c'est le bâton.
Non, mais ce qui est
tellement rafraîchissant
sur
la Terre.
C'est aussi les médicaments aussi. Alors que l'Afrique aussi récupère nos vieux médocs. Enfin, c'est hallucinant, quoi.
Mais que la nicotine soit multipliée par deux en Afrique.
Oui, mais je comprends pas. Alors pourquoi ?
Est-ce que ?
Mais pourquoi ? Pourquoi il y a des clopes différentes, Jean Bamba ? Ça change quoi pour les fabricants de clopes ?
Découler leur nicotine dans les...
Pourris.
Ah, c'est... Alors, découler la nicotine.
Pourquoi est-ce qu'ils ont des clopes plus pourries que nous ? Je comprends pas.
Le pourquoi, je ne sais pas.
Pourquoi on les fabrique ces clopes plus pourries ? Enfin, je veux dire, tout simplement.
Je ne sais pas. Pour c'est l'argent, bizarre. Oui, c'est ça, oui, parce que ça se consomme.
Oui, mais autant leur vendre des clopes.
Mais parce qu'ils en consomment plus, ouais. Et plus ils sont addicts, et plus ils sont consommateurs, et plus ils en font d'argent.
Exactement, hein, c'est pas ça qu'on appelle des crimes contre l'humanité.
C'est pas loin, ouais. Ouais, c'est pas loin. Mais comme là, on parlait tout à l'heure de.
Mais comme là, vous aimeriez bien qu'on rigole, on va rappeler tout sortir de ce sujet.
Pas du tout. On parlait tout à l'heure de la neige, hors antenne, avant le début de l'émission, en se disant qu'on se retrouvait avec des 10, des 15 centimètres de neige et qu'on n'en avait pas l'habitude dans la région parisienne et qu'il y a il y a malheureusement des personnes qui sont coincées par la neige et les intempéries. Il faut pas oublier, parce que moi je préfère le terme de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. On a l'impression
surtout que comme Trump continue d'affirmer avec les moins 50 dans le Wisconsin que le réchauffement climatique ça n'a pas lieu d'être, vraiment ça fait super peur quand même, parce qu'il y a quand même un président des États-Unis qui est complètement
irresponsable.
Non, mais c'est au-delà même de irresponsable. Il est complètement demeuré, quoi. C'est très inquiétant.
Il y avait un traité qui avait été signé par Barack Obama et tous les présidents de la République du monde qui donnait un petit espoir, le traité de Paris. Et celui
le problème, c'est qu'il n'a pas l'air de savoir de quoi il parle. Parce que s'il continue de penser que parce qu'il fait froid, ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, on n'est pas sorti de l'auberge.
C'est ça. Alors que nos calottes polaires continuent de fondre, que les océans continuent de monter et qu'il y a, c'est ça aussi le paradoxe le plus dingue, c'est qu'il y a des pays qui sont, eux, les plus respectueux de la nature, qui sont des petites îles dans l'océan Pacifique ou dans l'Océanie, qui vont disparaître alors que eux respectent la planète et eux vont disparaître de la pollution des pays les plus industrialisés comme la Chine ou nous en Europe ou les États-Unis. Ouais.
Mais par exemple, les Maldives, quand vous allez dans un hôtel, alors vous avez l'impression que tout est super écolo parce qu'ils vous disent les serviettes, pas les laver trop souvent, tralala, et puis il y a des atolls qui servent de poubelles.
C'est ça.
Mais ça, nous, en tant que touristes,
on s'en rend pas compte,
on les voit pas.
Enfin, les Maldives, faut pas y aller parce que la charrière.
Non, ça, bien sûr. De toute façon, les Maldives, c'est pour dire simplement, c'est quand même hallucinant de voir qu'on va toujours vider nos poubelles ailleurs, quoi.
Mais est-ce que vous faites des gestes vous au quotidien pour la planète ? Est-ce qu'on vous demande de prêter votre image à des marches pour l'écologie ? Il y en a de plus en plus tous les week-ends pratiquement, et qui réunissent des milliers de personnes. Est-ce que vous faites partie d'un collectif,
une
association.
Je pense
à celui de Chacapon, quoi, Freaks. Avec des artistes qui sont réunis, il y a la signature aussi du plus grand procès du siècle.
Le procès du siècle intenté, une action à l'encontre de l'État parce qu'il ne respecte pas les mesures.
C'est ça.
Non, je fais attention. Enfin, je peux pas
partir. Moi, je suis pas dans un collectif, mais au quotidien, j'essaie de faire attention.
Je fais un tri sélectif des poubelles, faire gaffe à la flotte.
Rassurez-moi, vous n'étiez pas en train de vous gratter le ventre.
Il y a quand même une espèce de...
D'accord, okay. Pas du tout.
Après, je pense qu'il faut pas trop non plus culpabiliser les consommateurs et tout ça, parce que l'hypocrisie quand même dans tout ça, c'est qu'on est là à dire faut arrêter de polluer nanana, et en même temps on balance en permanence de la publicité aux gens pour qu'ils aient envie de changer de machine, parce que tout ça c'est polluant. Donc il y a quand même un peu, moi je trouve, une espèce d'hypocrisie de la part des gouvernements à vouloir culpabiliser les consommateurs, les citoyens, à base de faites attention à ceci, à cela, et en même temps de l'autre côté, eh bien, promouvoir les machines, les voitures, les machins. À un moment donné, ça va, quoi. Le pauvre citoyen, il va toujours moins polluer que la grosse usine ou je ne sais pas quoi.
Je pense que chacun, à notre niveau, avec notre pouvoir d'achat de consommateur, et quel que soit ce niveau-là, on a justement ce pouvoir. On a ce pouvoir de dire qu'on ne va plus bouffer des saloperies avec de l'huile de palme parce qu'il y a des déforestations qui sont faites dans des coins de la planète où des forêts sont brûlées pour pouvoir mettre
Et puis là, vous allez voir avec le nouveau président au Brésil comment ça va être sympa.
La meilleure réponse, c'est l'absence de consommation.
Si vous regardez la télé, tout ça, en permanence, on va vous dire changez de voiture. Bientôt, on vous dira changer de femme, changer de mec.
Parce que c'est la société de consommation. On pousse à consommer.
Consommer, c'est polluant.
Absolument.
Il faut résister.
On est totalement d'accord.
Après, ça ne veut pas dire qu'on est super austère et qu'on est obligé de vivre.
Et il faut faire des vide-greniers de temps en temps pour.
Pour pourrir vendre nos poubelles aux autres. L'avantage du vide-grenier, c'est que vous vendez des poubelles en plus.
Non, ça évite de racheter neuf.
Exactement. Et on recycle et on donne une deuxième vie aux objets. C'est ce qui se passe dans ce vide-grenier. Il y a un côté très proche de l'enfance, évidemment. Les enfants ont un rôle très important dans le film. Ils sont présents en permanent, que ce soit d'ailleurs vous étant enfant ou des enfants actuels. Et puis, cette part d'enfance, ces souvenirs, ce ne sont pas des doudous, mais ce sont des souvenirs qui ont marqué, qui sont le lien indéfectible qu'il peut y avoir entre vous et votre père, vous et votre mère. Il y a le cirque qui est là aussi, qui nous renvoie à beaucoup d'images de notre enfance. Elle est très présente, cette enfance, tout le long du film.
Ouais, je crois que pour Julie, l'enfance, c'est quand même quelque chose qui est très central. En plus, il y a sa propre fille dans le film, et je crois que Julie, elle est quand même très touchée par ça, mais enfin en même temps vous me direz l'enfance, qui est-ce qui n'est pas touché par l'enfance? Vous disiez vous-même que vous aviez des photos d'enfants d'ailleurs en masse chez vous.
Plein.
Mais non, c'est vrai que c'est un truc important dans l'univers de Julie et dans ce film-là. Mais je saurais pas bien comment développer.
Qu'est-ce qu'elle vous en a dit, elle? Comment elle vous le raconte, ce film, quand elle vous a convaincu de venir sur le projet? Elle vous a dit, c'est l'adaptation d'un roman, ensuite c'est une fable, voilà les valeurs que je veux faire passer, les messages. Il y a aussi un petit suspense de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé comme drame dans la famille pour comprendre pourquoi tout le monde en est arrivé là. Enfin, il y a bien une démarche précise qu'elle vous a racontée, non, Samir?
Le secret? Qu'on avait tous un secret. Et puis moi, ce qui m'a aussi plu dans le film, c'est que Amir, le personnage que je joue, est pilote et qui a oui, qui a son petit avion, son coucou avec lequel il survole.
Oui, c'est un planeur hein, quand même, c'est pas non plus.
Si, c'est un avion.
Qu'est-ce qu'elle est mauvaise.
Non, c'est un avion.
C'est un avion.
Ah, c'est un avion.
Ah bon?
Oui, c'est un avion à moteur, qui survole le château de Cardar.
Oui, donc c'est vraiment le gros relou quand même, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que même en avion, il vient au-dessus de chez nous, quoi.
Bon, elle lâche rien. Le film sortira. Faites-vous votre propre idée. Le film sortira la semaine prochaine.
C'était compliqué le tournage.
Je vois bien.
Soyons précis.
Au quotidien. En plus, vous la connaissez bien, en plus.
En plus.
Vous avez déjà bossé.
Non, mais ça fait longtemps qu'on se pratique parce qu'on a tourné ensemble la première fois dans les années
94.
Ah oui.
Voici Daniel Morin. Yes.
Vous en avez entendu parler, la France se prépare vraisemblablement à rapatrier ses ressortissants djihadistes prisonniers des Kurdes après les combats en Syrie. Alors les réactions sont plutôt vives, beaucoup de personnalités de droite et d'extrême droite se sont prononcées opposées au retour de ces ressortissants. Alors il y a être opposé et être opposé. Ouais. Et là je crois que la médaille d'or revient aux députés Les Républicains du Pas-de-Calais, monsieur Pierre-Henri Dumont. Pierre-Henri qui propose tout simplement de les éliminer, de les supprimer, de les assassiner. Mais ouais. Bien sûr, comment on n'y a pas pensé avant, c'est la solution la plus efficace. Les gars, ils descendent de l'avion. Bon, avant de les tuer, tu les tortures un peu quand même, histoire de... Un truc pas violent physiquement, une torture plus psychologique. Hein. Tu les enfermes dans une salle d'embarquement, tu leur passes des chansons de Claudio Capeo. Il n'y a pas de raison, nous on y a eu droit, eux aussi doivent connaître la douleur. Bien sûr, après, tu les fusilles. Ce qui, après avoir écouté du Claudio Capeo, pouvait apparaître comme une délivrance. Bref, Pierre-Henri a une solution. Je suis prêt à le lâcher tout court, vraiment. Une solution radicale, certes, mais c'est une option comme les autres. Le problème, c'est que si on s'engouffre sur cette voie, qui nous dit que cette méthode ne va pas se généraliser et être appliquée ailleurs? Une fois la jurisprudence enclenchée, où sont les limites? Supprimer quelqu'un parce qu'on désapprouve ses actions, c'est une pente glissante. Pas de quart de finale pour le PSG, éliminé par Manchester United. Hier, à l'occasion de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Parisiens, Thomas Tuchel, s'est excusé de la piètre performance de son équipe. Dans la foulée, le président du PSG, Nasser El Khelaïfi, a fait comprendre à son entraîneur qu'il était mécontent de cette contre-performance. Il lui a tiré une balle dans la tête. Alors, c'est un peu radical, hein, mais, on économise en indemnité de licenciement. Non, c'est pas la solution, ça risquerait d'aller quand même un peu trop loin. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, nos invités sont Chiara Mastroianni et Samir Gesh. Faites du bruit! Alors, on a vu votre film, hein, La dernière folie de Claire Darling. Et autant on vous a trouvé excellente, Chiara, autant vous, Samir. On a été déçus. Oui, hyper déçus, hein. T'es d'accord avec moi, Leïla?
Ah, oh bah, grave, hein, dans ce film, Samir, il est nul.
Dommage. Ouais, non. On Quelle peut pas horreur. Éliminer les gens comme ça. Je lis la déception sur votre visage, Nagui, on peut pas. Je sais que l'idée de me tirer une balle tous les matins vous mettrait en transe, mais non. À ce moment-là, on perdrait
une
vite.
Une suffit, c'est pas tous les matins. C'est
mais si,
une.
Si, si, parce que je suis dur. À ce moment-là, on va vite perdre l'équipe. Même si pour certains...
Ça va les amis gosses, vous allez bien aujourd'hui? Alors moi pas du tout, je vous le dis franchement, tel que vous me voyez, ma vie me donne envie de crever dans un slip de Michel Houellebecq. Je suis au bout du rouleau.
Oui, là, c'est mérité. Guillermo, ça fait 2 ans qu'on comprend rien quand il parle et honnêtement, ça suffit. Allez, à demain.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Dans une semaine, Chiara Mastroianni et Samir Ghazmi seront avec Catherine Deneuve, avec Alice Guillaume, avec Laure Calamy, Olivier Rabourdin et Johan Leizen dans La dernière folie de Claire Darling. Dans 2 mois, vous allez tourner, Chiara, aux côtés de Camille Cotin, Vincent Lacoste, dans le prochain film de Christophe Honoré.
Oui, absolument.
Vous y faites quel personnage? Quel genre de personnage?
Quel genre de personnage? J'y fais un personnage d'une... Alors, c'est l'enfer de répondre à ces questions sans être complètement rébarbatif. Mais en gros, c'est une histoire de 4 personnages. Il y a Camille Cotin, Vincent Lacoste, moi et Benjamin Biolay, et qui vont se croiser entre une rue et un hôtel. Donc en gros, je suis absolument pas pitchée. On dit encore pitchée d'ailleurs.
Oui, on peut.
Oui. Enfin donc bref, je ne sais pas résumer.
Vous avez fait combien de films avec Christophe Honoré?
Ah, avec Christophe, je pense que j'ai dû...
Ça sera le 6e, non?
Peut-être, ouais.
Ah ouais, c'est une vraie fidélité entre un réalisateur et son actrice.
C'est de la chance.
Ouais, c'est cool ça, c'est cool. Quant à vous Samir, alors là, le grand saut, vous allez réaliser votre film.
Oui, c'est dans jour J moins, je sais pas, 15 jours là.
Ah
oui. Ouais.
Je peux vous coller la pression.
Mais on dirait pas, hein. Ouais. Je suis juste...
Ça s'appelle, ça s'appelle Ibrahim. Est-ce que vous serez devant et derrière la caméra ou seulement derrière?
Je vais être devant aussi, moi, avec le rôle du papa du héros. Donc, un rôle un peu secondaire.
Et, sauriez-vous nous résumer le film?
Oui.
C'est Ibrahim qui vit seul avec son père et une vie un peu austère. Et Ibrahim va déconner. Oh là là, ça a l'air chiant.
Quelle
ce film.
Quel âge a Ibrahim?
Ibrahim a 17 ans. Il va se faire enrôler par son meilleur pote pour aller voler.
D'accord.
Il va se faire attraper. Son père va venir le récupérer et rembourser la dette.
Mais
enfin,
tu racontes.
Non, et c'est le règlement, entre guillemets, pas le règlement de compte, mais enfin, c'est le règlement d'éducation entre le père et le fils.
C'est ça, et c'est aussi un prétexte à une réconciliation, à un.
Je me suis pas battu toute ma vie pour que mon fils soit un voleur et il va. Quoi, reprendre à zéro son éducation, pratiquement.
Il
a commis des erreurs, en tout cas dans le passé, dans son éducation.
Oui, et puis enfin, il y a eu un passé un peu douloureux des deux, mais c'est surtout que le gamin inconsciemment fait une grosse connerie pour juste
attirer l'attention.
Attirer l'attention et prétexte à renouer.
Quel réalisateur vous inspire dans votre manière de travailler? C'est-à-dire, vous aimeriez faire un cinéma à la quoi?
Moi, j'aime...
Vous aimez qui, ouais?
J'aime, ça va de Scorsese à Arnaud, à Alain Gomis.
Ben voilà, tu vas faire un film à Scorsese. Tout simple.
Pourquoi vous caressez le ventre quand vous me parlez?
Mais je me caresse pas le ventre.
Mais si.
C'est vous palpez
un peu. Le dos.
Non, c'était pas le dos. Là, et puis c'était les poignées d'amour là, que vous étiez en train de...
Ouais,
non,
ça balance. On écorche son nom, on balance.
Il soulève son pull.
C'est pas vrai.
Mais si.
Mais
si.
Mais c'est parce que ça a un rapport à la sensualité, au cinéma, à l'image.
Non, je cherche ces mots.
Tu n'as qu'à en même temps, quelquefois, vous faites l'émission cul nu.
Je te caresse. Des excuses à présenter d'ailleurs. Oh, voilà, tout de suite.
Pas qu'un peu désolé pour mademoiselle Chiara Mastroianni, demoiselle d'une autre époque qui pensait être venue sur France Inter pour parler cinéma d'auteur et grande culture. Ah ben non, ici on n'est pas chez Trapenard. Chez nous on parle saucisson, appareil dentaire, Clermont-Ferrand. Ça pique un peu au début Chiara, mais vous reviendrez. C'est addictif la bande originale, même quand il y a Guillermo. Désolé pour tous nos auditeurs cinéphiles, Nagui a une fois de plus spoilé un chef-d'œuvre méconnu, Bambi. Oh, en même temps, c'est un des rares films qu'il a vu jusqu'au bout, et encore plus rare qu'il a compris. Désolé pour la ville de Clermont-Ferrand, ville sinistrée par la vie, ville quittée encore par la culture, ville souillée par Samir Ghesmi encore. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il a dit de Dunkerque, Brest et Tourcoing. Bon courage pour les avant-premières en province. Et désolé pour le réalisme, la réalisation, la production du film et les autres comédiens qui ont découvert que Chiara et Samir non seulement n'avaient pas lu le livre dont est tiré le film, mais ne savaient même pas non plus où il avait été tourné. C'est de la légèreté ou du mépris, je ne sais pas.
Avec Alice Taglioni et Catherine Deneuve, La dernière folie de Claire Darling sera au cinéma mercredi prochain le 6. Merci beaucoup Chiara,
merci Samir. À vous.
Et merde pour le tournage dans J-15 jours, ça doit être une des nuits assez bouleversées, tumultueuses et blanches que vous passez. Non,
des nuits blanches, ouais, surtout, ouais. 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 À cogiter. Ouais.
Je suis sûr que ça va être bien.
C'est fini de boire merde votre pull, là, si vous voulez.
Demain
vous pouvez vous rhabiller.
Demain, plus jamais je dirai le docteur va recevoir des amis. Demain, Pierre Arditi et Michel Lèves seront nos invités.